Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est lui que le Seigneur, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut en vous séparant de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3 000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants.
Et une dernière lecture dans Actes, les vers 3, versets 1 à 8. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, il l'apportait et le disposait là pour qu'il puisse demander de l'argent à ceux qui entreraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda un don. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous !» L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes d'un saut. Il fut sur ses pieds, se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé.
Bonjour à chacun. Chers amis, bienvenue en ce jour de Pentecôte, ce jour qui nous rappelle la venue et le don du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples et sur les apôtres alors qu'ils étaient tous réunis à Jérusalem. Autrefois, au temps du peuple d'Israël, avant la venue de notre Seigneur Jésus, les fêtes de la Pentecôte avaient une toute autre signification et l'on ne parlait pas encore du don du Saint-Esprit. C'est Jésus, après la résurrection, et avant de monter au ciel, qui a averti ses disciples de la venue du Saint-Esprit. Jésus avait recommandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, de rester dans la ville, de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Et cette promesse était la suivante, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Aujourd'hui, si vous posez la question à votre voisin ce qu'est la Pentecôte, vous pouvez vous estimer très heureux s'il répond que c'est éventuellement une fête religieuse. Peut-être donnera-t-il toutes sortes de réponses. Quant à savoir de quoi il s'agit, c'est peut-être autre chose. Dans l'histoire du peuple d'Israël, l'année était jalonnée de fêtes en l'honneur de l'Éternel. Il y avait trois fêtes importantes, dites fêtes solennelles, où chacun, et en particulier les hommes, je vous rappelle qu'on est en Israël, devait se rendre à Jérusalem pour se présenter devant le sanctuaire pour y offrir des sacrifices. La fête de Pentecôte, ou les fêtes de Pentecôte, était l'une de ces fêtes, et c'est pour cette raison qu'il y avait autant de monde à Jérusalem ce jour-là. Dans le cours de l'année, la première des fêtes, en avril, était la fête des pains sans levain, la Pâque juive, rappelant la sortie d'Égypte et le sacrifice de l'agneau pascal. C'est lors de la célébration de cette fête des pains sans levain que Jésus, rappelant la Pâque juive, rappelant la sortie d'Égypte et le sacrifice de l'agneau pascal, c'est lors de la célébration de cette fête que Jésus instaura la Sainte Cène. La deuxième de ces fêtes, en juin, est la fête des moissons ou des prémices, appelée aussi fête des semaines. Des semaines, en effet, il y avait 7 semaines entre les fêtes de Pâques et les fêtes de Pentecôte. C'est la fête de la consécration de la moisson. C'est cette fête des prémices ou des moissons qui prendra par la suite le nom de Pentecôte. Alors, que veut dire le nom de Pentecôte? C'est un mot grec, d'origine grecque, qui veut dire 50e, c'est-à-dire 50 jours ou 7 semaines après la Pâque juive. C'était l'occasion d'offrir à Dieu les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits des produits de la moisson. La troisième fête, en octobre, est la fête des tabernacles ou des cabanes, soit le rappel de la traversée du désert par le peuple d'Israël, rappel aussi de la précarité que cela a signifié pour ce peuple. Cette fête est aussi appelée fête des récoltes et des prémices, premiers fruits du vin et de l'huile en octobre. Ces trois fêtes était l'occasion de grands rassemblements de Juifs de toutes les nations voisines, d'Égypte, de Libye, du Liban, de Mésopotamie et même de Rome, tous accourus pour ces fêtes recommandées dans le livre des Lévitiques. Il y avait même des Juifs et des non-Juifs qui participaient à cette fête. C'est ainsi qu'il y avait foule à Jérusalem, et ce sont ces gens-là qui furent témoins de choses extraordinaires, d'entendre les disciples, galiléens d'origine, leur parler dans leur propre langue. Le texte que nous avons lu et exposé nous parle de ce vent, et on l'a entendu au début de ce culte, de ce vent impétueux et de ces langues de feu qui se posèrent sur les disciples. Et l'on peut comprendre l'étonnement de ces gens, d'entendre ces disciples les enseigner dans leur propre langue, selon ce que l'Esprit leur disait. C'est vrai que d'autres, par contre, les accusaient d'étrives et pleins de vin doux. C'est alors que Pierre, très déterminé, prend la parole. Ah, ce n'est plus le Pierre de Gethsémané qui s'était endormi et qui n'avait pu prier avec Jésus. Ce n'est plus le Pierre terrifiés dans la cour du souverain sacrificateur qui, par trois fois, renia son maître. Ce n'est plus le Pierre triste et humilié qui s'en va pleurer dans son coin. Non, c'est un Pierre né de nouveau, un Pierre vivant et rempli du feu de l'Esprit, passionné pour son Seigneur. Lui qui avait tremblé devant une modeste servante et qui maintenant s'adresse à la foule, aux Juifs et aux non-Juifs, tous réunis à Jérusalem. Hommes israélites, et vous tous sachez que ces gens ne sont pas ivres, il n'est que 9 heures du matin, mais sachez que les choses dont vous êtes témoins ont déjà été annoncées par le prophète Joël, et on l'a lu tout à l'heure. Dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et ils prophétiseront. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Pierre ajoute encore, homme israélite, écoutez, sachez que ce Jésus, l'homme de Galilée, cet homme qui a fait des prodiges et des guérisons, vous l'avez fait arrêter, vous l'avez livré aux païens pour le faire mourir sur une croix, tel un brigand. Eh bien, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, et il reviendra. Il reviendra pour juger les nations, et chacun pliera le genou devant lui. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Le discours de Pierre a bouleversé et fait trembler toute la foule. Que ferons-nous? Que ferons-nous? S'écrie-t-il. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et le monde entier. Et nous sommes, nous aussi, au bénéfice de cette promesse. Ainsi, ce fut la première Pentecôte, ici à Jérusalem. Mais aucun passage de la Bible ne laisse supposer qu'un tel événement ne puisse se reproduire. Bien au contraire. Aujourd'hui, au Népal, en Kabylie, au nord de l'Inde, en Amérique du Sud, des choses merveilleuses se passent, des églises s'ouvrent et se créent. Hier, c'était en Corée du Sud, pays qui est actuellement à la plus forte densité de missionnaires dans le monde. Alors, à quand le réveil dans notre pays? En 2007, lors de notre retraite à Valouse, petit hameau dans la Drôme, Paul Hémès, qui avait la responsabilité de cette semaine, nous a parlé des réveils du 19e siècle, en particulier en Grande-Bretagne et en Écosse, et dans les îles qui entourent ce pays, les îles des Orcades et l'île des Hébrides. Ces réveils furent souvent le fruit de prières persévérantes de personnes modestes et souvent insignifiantes. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne d'avoir la persévérance dans la prière, afin qu'un réveil aussi vienne dans notre pays. Chers amis, prions pour qu'un souffle de réveil se manifeste aussi dans notre pays. Une nouvelle Pentecôte, c'est possible. Ne laissons pas l'islam gagner la bataille. Nous ne serons jamais seuls à prier. Même en dehors de nos frontières, des chrétiens prient pour notre pays afin qu'un temps de réveil se manifeste. Nous sommes très privilégiés dans ce pays, mais surtout, nous avons surtout besoin d'une bénédiction spirituelle. J'ai dit, ne laissons pas l'islam gagner la bataille. Nous avons en Suisse des dizaines de milliers de musulmans. Dieu n'a-t-il pas permis afin que beaucoup connaissent le chemin de la vérité et de la vie? Nous avons vu tout à l'heure la puissance du Saint-Esprit agir dans la vie de Pierre à la Pentecôte. Au chapitre 3, nous voyons Pierre et Jean montant au temple à l'heure de la prière. J'aime beaucoup cette expression, à l'heure de la prière. Et là, un mendiant tend la main. Et c'est Pierre qui parle. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et d'un bond, l'homme, le mendiant, fut debout, marchant et glorifiant Dieu. L'action de Pierre provoqua un véritable choc. Et après que Pierre eut pris la parole, beaucoup, beaucoup se joignirent aux disciples. Quant aux chefs du peuple, aux responsables du temple, ils s'opposaient aux disciples, allant jusqu'à les faire jeter en prison. Mais là encore, le Saint-Esprit agissant, les portes des prisons s'ouvrirent et les disciples continuaient d'enseigner dans le temple, à la grande confusion du grand prêtre. Chers amis, nous sommes, nous aussi, face à un monde qui tend la main, qui a soif de vie nouvelle. Alors, qu'avons-nous à offrir? Qu'allons-nous offrir à ce monde? Qu'allons-nous donner? Sur la montagne, face à la foule rassemblée, Jésus avait dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je sais que les anciens ont tout un programme pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette cité de Mérin. Mais pour cela, il faut un engagement de nous tous dans la prière pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Alors prenons à cœur de prier avec persévérance pour cette cité, pour notre Église, pour notre conseil, afin qu'un temps de renouveau se fasse sentir sur ce pays pour la gloire de notre Seigneur et de notre Dieu. Je citerai cette parole de Zacharie qu'on a chantée tout à l'heure, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, par mon esprit. Amen. » Nous voulons prier. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant et nous te louons et te disons merci pour le don du Saint-Esprit. Mais nous voulons te prier pour notre monde aussi. Nous voulons te prier afin que nous puissions aussi être un signe pour notre monde, pour cette cité. Seigneur, c'est à toi que nous adressons notre prière parce que tu es le puissant, celui qui règne. Et nous te disons merci. Amen.